La troisième mi-temps Sud Radio.
Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans la troisième mi-temps Sud Radio, comme tous les lundis évidemment, pour revenir sur le week-end rugby que vous avez vécu évidemment sur Sud Radio, puisque Sud Radio, c'est la radio
du rugby.
J'attendais que ce soit dit en cœur, bah, en cœur, encore.
Ouais, non mais il y a un moment où ça va pas être trop solidaire non plus.
Avec Quentin Cabanis et Marius François, bonjour messieurs.
Bonjour à tous.
C'était un week-end de Coupe d'Europe, de Champions Cup et de Challenge Cup, puisqu'il y avait deux clubs français en finale, Montpellier-Ulster pour la Challenge Cup, UBB-Leinster pour la Champions Cup des finales franco-irlandaises. Et c'est simple, c'est un 100% 2-0 de victoire française, puisque vendredi soir, les Montpellierains se sont imposés à Bilbao sur le score de 59-26 face à l'Ulster. Ils ont étrié cette pauvre province irlandaise sans faire dans la demi-mesure les Montpelliérains et donc ils raflent un troisième Challenge Cup en l'espace de 10 ans, 2016-2021 et donc 2026. UBB back to back également, puisque l'UBB s'est imposé face au Leinster dans une finale à sens unique également, 41-19 face à des Irlandais dépassés durant une demi-heure en première mi-temps, ce qui a fait l'écart ensuite pour la seconde. Messieurs, on va se poser une question dans quelques instants avant de vous faire réagir sur les deux rencontres. Qui sera le plus à même de réaliser le doublé entre Montpellier et l'UBB? Qui va peut-être réaliser un doublé avec Champions Cup et Top 14 ou Challenge Cup et Top 14, Montpellier ou Bordeaux, on en discute dans un instant. Mais d'abord, votre retour sur ces deux rencontres. On a vu une domination des clubs français outrageuse, Marius.
Ah bah plus qu'outrageuse, j'en ai presque été déçu en fait. Les deux finales étaient jouées dès les premières minutes et on a vu deux équipes françaises qui ont clairement mais surdominé face à des Irlandais qui n'existaient pas, tout simplement. Alors déjà, le vendredi soir, le Montpellier qui a complètement roulé sur l'Ulster. Alors à la rigueur, on s'y attendait peut-être un petit peu plus. L'Ulster qui est pas forcément très en forme cette saison. Je crois qu'ils sont que 9e du RC, là où Montpellier est 2e du Top 14 et est une équipe très très sérieuse. En revanche, pour Bordeaux, moi je m'attendais à un match quand même plus serré. Mais je voyais les Bordelais favoris évidemment, mais je m'attendais à quelque chose de plus serré, à une finale quoi en fait, une vraie finale. Et là on a eu un match très 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 cool pour les Bordelais, mais moi j'ai trouvé ça dommage d'un point de vue rugbystique. Ils font le taf, ils font une première mi-temps d'anthologie et ils leur roulent dessus, mais le Leinster, ça confirme juste nos doutes de voir que ça va pas du tout, et ils se sont fait démonter dans tous les secteurs du jeu. Et puis après, quand on connaît l'armada offensive des Bordeaux Béglés, quand ça roule bien, ils les ont désossés.
Et des faits de jeu aussi en première mi-temps, une interception de Moefana, un renvoi direct de Byrne qui a fait que derrière ils ont enchaîné avec en plus un coup de pied de Louis Bielbiaré qui on pensait aller en ballon mort mais contré par Keenan, ce qui fait qu'il y a une mêlée à 5. Enfin voilà, en l'espace de quelques minutes, tout s'est mis en place pour Bordeaux, s'est mis contre le Leinster qui s'est pas rendu la tâche facile possible non plus. Bordeaux, c'est simple, ils scoraient assez facilement alors que on voyait des Irlandais qui tapait contre un mur sans cesse pour au final ne pas avancer beaucoup. Ce sentiment de domination, est-ce qu'il est, il peut être frustrant et agaçant à la sortie d'un week-end comme ça, Quentin?
Alors frustrant et agaçant quand t'es français et que tu supportes le rugby
évidemment
français,
que non,
évidemment
mais,
que non, mais
t'aimes bien des victoires avec un peu plus
de
panache.
Tu préfères les matchs un petit peu plus serrés quand t'es pas fanatique d'une équipe, parce que je pense que tous les supporters de l'UBB ont très bien vécu la situation, vivent le match plutôt sereinement.
Si tu vas aux toilettes, tu peux y aller sans te dire je vais louper une action.
Voilà, t'as pas la boule au ventre pendant 80 minutes. Tu dis que bon, les choses se passent plutôt bien quand t'es plus globalement spectateur ou amateur de rugby. C'est pas forcément le genre de finale dont tu rêves. T'espères des scénarios beaucoup plus resserrés, etc. pour ce match, mais Force est de constater que l'UBB a aussi fait quasiment une première période absolument parfaite. Donc c'est aussi très beau à regarder, parce qu'aussi bien défensivement qu'offensivement, tous les choix qu'ils ont faits, c'était les bons à chaque fois. Il y a Maxime Lucu qui t'a pondu une masterclass sur la première période qui est quand même exceptionnelle, faut aussi le souligner. Des garçons qui ont élevé leur niveau de jeu. Tu te dis que s'il fallait faire un match parfait dans la saison, c'était celui-là pour une finale, et c'est ce match-là qu'ils ont choisi pour être exceptionnel. Donc il y a un moment où on peut que féliciter les Bordelais, et c'est valable aussi pour le MHR, même si c'est une prestation dont on commence à être habitué pour Montpellier. C'est une équipe qui est quasiment intraitable, quoi. C'est pas flamboyant quand tu les regardes, mais c'est diablement efficace. C'est propre dans les fondamentaux, c'est très fort, et mine de rien, c'est une équipe qui n'a perdu que 3 fois depuis novembre. Tu vois, qui est quand même intraitable dans tous les domaines. Donc pour répondre à ta première question là, qui était qui est le plus apte à faire le doublé, eh ben moi j'irais sur cette équipe de Montpellier, qui est peut-être moins talentueuse sur le terrain, sur le papier, mais qui déjà s'est offert quand même une fin de saison un petit peu plus tranquille de par son classement que l'UBB, qui n'est pas non plus assuré de jouer les phases finales. Donc déjà, avant de viser le doublé, il va falloir assurer une qualification pour l'UBB, et donc laisser beaucoup de plumes, alors que Montpellier peut, en cas de résultat favorable ce week-end, quasiment s'assurer une place dans les deux premiers.
Montpellier, et qui donc, va recevoir Pau,
s'épargner un match, ce qui sera quand même oui, parce que Montpellier, comme Bordeaux, a pour l'instant une rencontre de plus que les 6 autres concurrents,
même plus
ou plus que par rapport au Stade français,
même le Stade toulousain a ils ont deux matchs de plus que le Stade toulousain. Demi-finale et finale.
Ouais,
parce que le Stade toulousain éliminé en quart.
Ouais, bah, c'est ça. Donc, t'imagines.
C'est précieux.
S'ils arrivent, et puis, bah, s'ils y passent pas, ils en auront 3 de plus que le Stade toulousain, en cas d'une possible finale, tu vois.
Donc ils peuvent sortir mâchés.
Voilà.
Mais le sentiment, du coup, qui prédomine, c'est, alors, pour.
Qu'on est trop fort.
En top 14.
On est trop fort, donc, pour le reste de l'Europe,
évidemment.
Et du monde. La France domine. C'est notre sport, le rugby. On va être champion du monde.
À qui on peut
on va
vouloir.
Marcher sur tout le monde sur les 15 prochaines années. Arrêtez les compétitions.
Week-end de top 14. Là, ouais. C'est Montpellier qui reçoit Pau,
c'est
l'UBB qui va à Toulon dimanche. Quelle équipe, Marius, t'a fait la meilleure impression? Est-ce que c'est envisageable, quand on voit un match comme a fait Bordeaux samedi en finale contre le Leinster, de se dire potentiellement cette équipe-là va peut-être pas jouer les phases finales?
Bah, c'est dire le niveau du top 14.
C'est possible, hein.
Ils se le sont bouffés en début de saison.
Vous pensez vraiment qu'ils peuvent paumer à Toulon, qu'ils peuvent paumer à domicile contre Clermont et qu'ils peuvent louper la place dans les 6?
Honnêtement, il y a peu de chance.
Alors, après une finale comme celle-là,
je crois à la défaite à Toulon, parce que j'ai le sentiment qu'ils vont pas arriver avec l'équipe qu'ils ont alignée sur le coup d'envoi de la finale.
Oui, mais...
et qu'ils visent tout pour Clermont.
D'accord.
Donc je pense qu'ils vont perdre à Toulon, mais gagner à Clermont et se qualifier, mais que la route va être trop longue au bout. Pour arriver face, par exemple, allez, on va pas mâcher le scénario, mais possiblement face au Stade Toulousain en finale, avec 3 matchs de plus, ça peut faire une différence en termes d'état physique qui pourrait jouer contre cette équipe de l'UBB. Mais à côté de ça, bah, ils ont montré qu'ils ont le talent pour battre absolument n'importe qui.
Donc, moi je suis assez aligné. Après, pour rejoindre Quentin sur la question du doublé, je vois aussi plus Montpellier faire ce doublé-là. Je ne dis pas que Bordeaux ne va pas se qualifier en phase finale.
Non,
mais
Bordeaux peut le faire. Ce serait pas non plus ce serait pas une surprise absolue que Bordeaux gagne le top 14 quand on voit les talents qu'il y a.
Ouais, mais là c'est encore.
Mais ce sera un exploit exceptionnel.
Ouais. Non, mais je les vois. Si je les vois quand même, ils vont aller en phase finale. Moi, je pense même qu'ils vont battre Toulon. Mais c'est même pas. Moi, pour moi, le débat sur qui gagnera le top 14, c'est même pas tant par rapport au fait qu'ils aient joué plus de matchs ou pas. C'est que en fait il y a un niveau de dingue en top 14, encore plus cette saison, et que moi parmi mes favoris je vois Montpellier l'être déjà plus que Bordeaux, et potentiellement Toulouse aussi toujours plus que Bordeaux. Donc voilà, après ils peuvent toujours si je pense qu'ils vont se qualifier, mais le match crucial ce sera contre Clermont, parce que je pense que Clermont sera à peu près dans la même situation que c'est-à-dire victoire impérative ou pas de qualification.
De toute façon, il y a un monde où on a 4 équipes qui jouent la qualif sur la dernière journée.
Avec des confrontations plus ou moins directes.
Ouais.
La dernière journée, je sais que le Racing reçoit Toulouse. Il y aura donc, si de tête, il y a un Bordeaux-Clermont. Montpellier-Pau, Stade français sera au-dessus et ils seront déjà plus plus ou moins qualifié avec Toulouse.
C'est quoi, c'est La Rochelle Stade Français?
La Rochelle Stade Français, exactement. Et tu,
moi, je pense que La Rochelle a le meilleur tableau quand même, parce qu'ils se déplacent à
Montauban. La Rochelle aussi.
Et après.
C'est
ouais, non, mais attends, la Rochelle
est dingue.
La Rochelle n'est pas morte.
La fin de journée, les deux prochains week-ends, ça va être fou.
La Rochelle n'est absolument pas morte, parce que je pense qu'ils peuvent gagner ce week-end et donc quasiment rentrer dans les 6 parce que, bah, il y a des confrontations directes.
En fonction des autres résultats.
Voilà, en fonction des autres résultats. Et puis derrière, ils accueillent le Stade Français. Et c'est pas déconnant que La Rochelle gagne à domicile
parce que
le Stade
parce
Français.
Que ce week-end,
La Rochelle, ils peuvent être sur un 10 sur 10 sur les deux dernières journées.
Ce week-end, il y a une confrontation. Il y a Clermont qui reçoit le Racing.
Tu nous le dis, bah, tu sais quoi,
Clermont, ils ont un calendrier.
Le Racing, exactement, dimanche soir à 21h.
Exactement.
Et il y aura eu à 16h30,
16h30 ouais,
Toulon-Bordeaux.
Ouais.
Donc déjà, rien que, bah, déjà Clermont-Racing, tu potentiellement.
T'élimines une des deux équipes. Racing peut s'éliminer.
Le Racing peut s'éliminer.
Le Racing peut s'éliminer en fonction des autres résultats.
Ouais, le Racing, ça peut être mort parce qu'on ne voit pas comment La Rochelle peut perdre à Montauban. Je pense que ça, personne.
Une réaction sûr que non. Je pense que non, ça n'arrivera pas.
Et je pense que La Rochelle peut monter à 68 points, tu vois, après cette journée, sachant que Clermont est à 67 points à la 6e place et le Racing à 65 points à la 7e place et que Bordeaux est 5e avec 68 points. Donc, quasiment, La Rochelle peut être 5e à l'issue de cette journée ou 6e. Mais tu vois, bon, La Rochelle peut être 6e à la fin de cette première journée, sachant qu'ils recevront le Stade Français à la dernière journée. Donc, La Rochelle peut, sans aucune. Ce serait pas non plus un scénario fou que La Rochelle se qualifie.
Mais est-ce que vous croyez pas un peu à ce côté là, ils ont gagné un back to back Bordeaux.
Ils vont faire la bringue jusqu'à mardi.
Est-ce que justement ils vont vraiment faire la bringue? Ils ils disent déjà que c'est un peu moins agressif. Jalibert l'a dit.
Ouais, ils avaient fait un 4 jours non-stop.
Mais ce que je veux te dire, c'est que est-ce qu'ils sont pas d'ailleurs, ils ont pas déjà basculé dans le OK, très bien. Ça c'est digéré. On va à Toulon et avec qui tu vas à Toulon?
C'est ça la vraie question.
Équipe hybride. Équipe hybride comme ils avaient fait contre Bayonne, tu peux pas te permettre.
Ouais, mais ça c'est
pas
bien.
Équipe hybride,
contre Bayonne, ça leur a réussi.
Oui, mais parce que tu fais rentrer les tauliers en fin de match.
Mais c'est ce qu'il faut faire. Typiquement,
c'est certain.
D'accord. Okay. Si moi j'étais le premier à le dire,
ils ont failli passer à la trappe à Perpignan.
Oui, peut-être. Mais je maintiens. Oui, mais ils ne sont pas passés. C'est-à-dire qu'avec une équipe
Toulon, c'est pas Perpignan et Bayonne.
Non, mais Toulon est malade et puis Toulon joue plus rien.
Toulon est moins malade.
Obligé.
Toulon, c'est le dernier match à la maison. Toulon joue avec une tôle.
La cité Yannick Bru, tu peux pas te permettre de balancer un match, tu peux pas. Ah, sinon tu te qualifieras pas en top 14.
Alors, Toulon, tu perds.
Ta saison sera pas ratée parce que t'es champion d'Europe, mais quand même, t'es pas dans le top 6.
Si Toulon perd, ils sont persuadés de ne pas finir dans le top 8.
Oui.
Donc pas de Champions Cup l'année prochaine pour Toulon.
Et donc t'envoies une grosse équipe. T'as pas le choix. C'est comme ça. Tu vois avec tes prépas physiques, tu trouves des solutions, tu bois du jus de cornichon, mais
c'est pas bon. Hein.
Tu fais quelque chose pour tenir
efficace,
jusqu'à la fin. Ouais, visiblement pour les crampes, c'est très efficace. C'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit en Ariège.
Déjà testé?
Jamais testé, non. Jamais.
Parce que le cornichon est très réputé en Ariège.
Le cornichon est très réputé en Ariège.
Mais ouais, non, tu peux plus faire d'impasse, donc voilà.
Mais je pense que. C'est vrai que, en effet, je vous rejoins, messieurs, sur le sentiment, Bordeaux, c'est incroyable back-to-back, ça a été fulgurant encore une fois en finale, une sorte de facilité des joueurs maîtrise.
Je viens de lire une info, alors je vous la partage parce que ça me fait rire et qu'on parle de Bordeaux et que ça concerne l'UBB, c'est que l'UBB vient de taper le Leinster en finale de Champions Cup où clairement on a vu qu'il n'y avait pas de 10 au Leinster, et ben le deuxième ou troisième 10 de l'UBB retourne au Leinster. Carberry va retourner au Leinster la saison prochaine. On vous a pissé dessus en finale, vous avez pas de 10. Allez, tiens, prenez lui, on s'en sert pas.
On le veut plus. Mais Montpellier nous a fait une impression assez dingue. Alors, avec surtout une. Là où Bordeaux, sur des équipes hybrides, on sent qu'ils sont parfois un peu limités, parfois un peu courts, Montpellier, on n'a pas du tout cette sensation-là sur dès qu'il y a des turnovers, dès que ça fait un peu bouger un peu l'équipe, on a l'impression que, honnêtement, c'est peut-être plus profond et plus gaillard que ce qu'on imaginait.
Ah, mais complètement. Et puis surtout, il y a une continuité dans l'effectif. Et puis, il y a, comme disait Quentin, c'est moins flamboyant. Effectivement, en regardant Montpellier, on va pas s'attendre à ce que les ailiers mettent des doublés à tout va ou des grosses envolées. Mais en revanche, dans les fondamentaux, dans le jeu de devant, c'est régulier, sérieux, ça fait mal. Et ça perd pas.
Montpellier, à l'extérieur, c'est terrifiant. Là, je suis en train de regarder les derniers résultats de Montpellier. Alors, déjà, les 8 dernières journées, c'est 8 victoires. Mais dans ces 8 victoires, t'as le déplacement à l'Union Bordeaux-Bègles, où tu l'emportes, le déplacement à Castres où tu l'emportes. Si tu remontes un petit peu plus tôt, ils ont été gagnés à Clermont, ils ont été gagnés à La Rochelle. C'est quand même terrifiant le bilan de Montpellier là.
Je crois qu'ils ont 3 défaites depuis novembre, si je dis pas.
Ouais, non, mais depuis le.
Bah, la dernière, je pense que c'était face au Stade Toulousain et justement avec une équipe remaniée,
mais
qui était loin d'avoir fait tâche. Oui. Là, ils étaient allés sérieux les mecs.
Non, mais les trois défaites depuis le 22 novembre.
Juste pour couper 30 secondes, je crois que la défaite contre Toulouse, Montpellier était la deuxième équipe à ne pas avoir permis à Toulouse de prendre le bonus offensif.
Le Stade Français, les autres. Ouais, mais tu regardes. Donc les trois défaites depuis le 22 novembre, c'est à Pau, tu perds de 2 points, c'est à Toulon, tu perds de 3 points, et donc cette défaite à Toulouse où là tu perds
un peu plus, mais
45-29, mais puis à la fin de match, et puis ouais, il n'y a pas le bonus, puis t'arrives pas non plus avec l'équipe type pour aller arracher, voilà, c'est par exemple c'était Léo Colli titulaire, Picardou au centre, Etchegaray à l'arrière, Rates sur une aile, ouais. Tu vois, c'était pas non plus la grosse équipe pour cette équipe, t'avais pas Banks, t'avais pas Mioti.
Non mais Montpellier c'est très 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 sérieux.
Très sérieux, gros candidat. Et quoi qu'il arrive, ils joueront la Champions Cup la saison prochaine.
Ils savent jouer les gros, Montpellier. Ah, tu vois, ils savent, ils ont la méthode, je pense, pour battre Toulouse.
Mais parce qu'ils ont un projet de jeu très clair qui est que grosse défense, grosse occupation. C'est la pression, comment ils vont gérer.
Alors moi, c'est même pas la pression qu'ils en ont pas.
Non, moi, c'est pas la pression qui m'inquiète, c'est plus dans quel état ils vont récupérer Vounipoula qui avait l'air bien touché au genou.
Tu le fais pas jouer contre Pau, t'as d'autres suites, hein. T'as du monde, t'as Mouchi qui peut dépanner, t'as du Tolègne.
Mais on parle de joueurs top plus.
Bien
quoi,
sûr,
tu vois.
Mais je préfère le ménager un week-end et le récupérer pour les demi.
Évidemment, mais tu vois, c'est un peu comme la blessure de Wookie. C'est deux joueurs qui sont quand même très importants pour leur effectif et qui peuvent manquer.
Je pense que Wookie fait une excellente saison, mais moins important à Bordeaux que Vinipola à Montpellier.
Wookie en touche.
Mais en troisième ligne, t'as du monde.
Ouais, non, mais du niveau qu'il a eu cette saison.
Je te dis qu'il fera une saison exceptionnelle. Je te dis juste que, quitte à choisir quel est le joueur le plus important dans l'effectif des deux équipes, je pense que Vinipola est plus important.
Vinipola, il est même essentiel.
T'es en train de me dire qu'on pouvait le remplacer.
Vinipola, il est essentiel à Montpellier, là où
je pense que c'est plus important d'avoir Vinipola à Montpellier que Wookie à Bordeaux.
Je suis pas convaincu à 100%.
Messieurs, justement, on va parler des joueurs puisqu'on va clôturer cette Champions Cup. Je vous ai demandé de vous préparer le petit 15.
Elle s'est clôturée toute seule. Hein.
Elle s'est clôturée toute seule pour clôturer cette Champions Cup. Votre 15 de l'année de la compétition qu'on vous mettra dans quelques instants grâce à Marius ou François sur les réseaux. Première ligne, Quentin Cabanis.
Alors, Jefferson Poirot, pilier gauche. Lamotte, talonneur. Tate Furlong, pilier droit. Alors, je vous vois venir sur le pilier droit, je vais vous expliquer
porteur.
Pourquoi je n'ai pas mis le même que vous.
Porteur à gauche, Sian au talon et Big Ben à droite.
Eh bien, on en a un en commun avec Marius qui est porteur à gauche, Lamotte au talon, et j'ai changé au dernier moment. Je mets Sadi à droite.
Ouais.
Alors, qui a fait 7 matchs sur 8 et qui est titulaire. Alors, Big Ben rentre, il marque, c'est Tony Truant, mais celui qui fatigue les défenses, fatigue les mêlées, c'est quand même le Sud-Africain Sadi.
Je montre sur ma feuille que c'est pas des ondis. Je l'ai mis là, un petit encart, super sub Big Ben Tamefuna, parce que je me voyais mal le mettre titulaire quand il a démarré tous les matchs remplaçants.
Ouais, mais on a pas de super sub.
Pour le moment, on est d'accord, on va trancher sur le pilier droit, parce qu'on est d'accord sur porteur, puisqu'on en a deux. Contre un.
Ouais.
Et on est d'accord sur Lamotte parce qu'on en a deux contre un. Qui de Sadi, de Furlong?
Non, Furlong c'est là.
Sadi, Furlong ou de Big Ben qui sera titulaire selon vous?
Moi je vais aller sur Sadi du coup parce que pour le simple fait que Big Ben Tamefuna n'était pas titulaire. Mais mention spéciale à cet homme qui a été très important.
Exactement.
Dans le parcours de l'UBB.
Si on devait choisir le remplaçant de la compétition, c'est évidemment Big Ben.
Ouais. Non, mais après, je comprends.
Surtout que Bordeaux, je pense, ne serait peut-être pas. Enfin, il a changé des matchs, notamment contre Toulouse.
Non, mais j'ai
le travail de Sapp en amont est quand même fait par.
Il y en a un qui a joué 60% des matchs, quoi. Du moins, du temps de jeu. Tu vois, ça dit, il a démarré titulaire, c'est lui qui jouait, et Big Ben rentrait.
Ouais.
Mais c'est pas déconnant, mais juste je l'ai pas mis parce qu'il était pas titulaire.
Ta deuxième ligne, Marius, Louis-François.
Palur, Ibans, moi.
Pareil.
pas l'Uribans, je vais également sur cette deuxième ligne-là, à la fois bordelaise et toulonnaise. Exactement, troisième ligne pour Quentin Cabanis.
J'ai mis Wookie en 6, Willis en 7 et Barbery en 8.
Moi j'ai Barbery en 8 aussi, Doris qui est 8 mais que je mets quand même en troisième ligne, obligé, et Matt Fagerson, puisque c'est le meilleur plaqueur de la compète.
Intéressant. J'étais plus parti sur la même troisième ligne que Quentin. Barbery en 8, ça c'est une évidence. Et j'étais parti sur Wookie en 7 et Willis en 6.
Que Willis, Willis,
c'est le seul Toulousain qui.
Mais après, est-ce que aussi on n'est pas matrixé par le top 14 ou quoi qu'il arrive, Willis, ben, c'est toi.
Vous voyez, pas mettre Doris.
Je vais faire un pas.
Doris, c'est dur quand même parce qu'il fait.
Après le match de samedi, je mets aucun Irlandais. Je te l'annonce.
Mais Wookie, faut se rappeler qu'il y a un match, il te claque un triplé quand même.
Oui.
Je veux dire, Wookie, il fait une.
Et puis, au début, j'avais même hésité, même avec Gazzotti, parce qu'il fait.
Tu sais quoi,
Gazzotti, mais
je te rejoins à mi-chemin. Nous gardons Barbery tous les trois. Oui, nous avons Wookie à deux, et je te rejoins sur Matt Fagerson.
Donc tu mets pas
même
Willis.
Pas Doris.
Et je mets pas Willis.
Ni Willis. Aïe.
Ah, c'est des choix qu'il faut faire.
Ouais. Bah, choisir Fagerson Doris, moi, je préférais garder Doris. Mais on peut aller sur Fagerson.
Ouais, Fagerson, allez, allons sur un Écossais.
Fagerson.
Il en faut au moins un.
Ça me fait mal au cœur de pas mettre Willis non plus. Mais bon.
Ah, mais oui, ne pas mettre Willis, ça me sacrifie. Bah après, tu l'avais pas mis donc.
Et non.
Bah, tu veux pas dire, ça te fait mal au cœur, tu l'avais pas mis. Moi, je l'ai mis, Willis.
Et ça me fait mal au cœur de. Voilà.
Charnière.
Je pensais pas que vous alliez le mettre. Après, tu détestes Toulouse.
Je déteste.
Non, parce que techniquement, là, dans ton
c'est
équipe.
C'est vrai que Marie-François est supporter de Bordeaux, c'est important de le savoir.
T'as une équipe où t'as zéro Toulousain?
Non, si, vous verrez. J'avais essayé, j'en avais marre qu'il y ait des bordelais partout, là. Donc j'ai essayé de varier un maximum. Excellent, il y a des bordelais.
Il a réussi à faire un 15, il y a un bordelais alors qu'ils ont gagné la compétition.
Il est de mauvais poil depuis samedi, c'est exceptionnel. Ouais. La charnière, qui est donc la charnière.
De l'UBB pour moi, Lucu Jalibert.
Toi, tu m'as dit que tu mettais la charnière toulousaine, toi.
Non, j'ai mis Lucu et Jalibert. Je voulais mettre Russell, mais.
Lucu Jalibert aussi.
Jalibert.
Après, Phil Russell fait partie des 4 meilleurs joueurs du tournoi,
évidemment,
etc. Mais
bon.
On doit choisir qu'un 10.
Il perd.
L'autre l'a battu, quoi.
C'est ça. Donc, Lucu Jalibert, on est d'accord là-dessus.
Bah, tu recherches l'équipe de France. Hein.
La paire de centre, messieurs. Quentin Cabanis.
Non, vas-y, Marie.
Moefana Gourgue.
J'ai Moefana Gourgue également.
Bah, Moefana Gourgue.
T'avais mis qui?
Moefana Gourgue.
Ah, pareil. Vous voyez.
Franchement, j'ai eu du mal à trouver. Au début, je cherchais.
À 13.
Ouais, qui mette. Parce que pour moi, Moefana, il était très bien. Il fait une énorme finale. Donc,
Il va mieux, là. Parce qu'au début, c'était pas ça.
Ouais. Je vais être très honnête. Je pense que j'aurais pu mettre en 13. J'aurais pu mettre Brex s'il n'avait pas fait une très mauvaise demi-finale contre le Leinster. Il fait un quart très, très solide contre les Écossais de Glasgow.
Ouais. Après, je me suis dit, je me suis dit peut-être un des centres du Leinster. Mais bon, en finale, ils sont tellement fait détruire que c'est dur de tu vois. Et puis le Leinster a pas eu non plus un parcours tu vois,
ultra donc, compliqué. Donc dans Moefana Gourgue, c'est cohérent. Ozel, je crois qu'on est assez d'accord. Ozel,
LBB Dréan.
LBB Dréan
également.
18 essais à 2.
Bah, ouais, c'est très fort.
8 essais quand même Dréan.
Ouais, c'est pas mal. Et il a un match en moins.
Ouais, il a pas joué la finale.
À l'arrière,
Rayassi.
On est plutôt d'accord. On est plutôt d'accord. Là où on n'était pas d'accord, c'était la troisième ligne. Je vous rappelle donc le 15 de la Champions Cup que vous verrez sur les réseaux. Porter, Lamotte, Sadi, Palu, Ribans, Matt Fagerson, Wookie, Barbery, Lucu Jalibert, LBB, Moefana Gourgue, Dréan et à l'arrière, Rayassi. Il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
En même temps, ils ont gagné. Il y a un moment où ils ont gagné en roulant sur à peu près tous les adversaires qu'ils ont eu.
Mais deux Toulonnais.
L'absence de Willis, ça me fait beaucoup de peine. Sachez que je vous le dis. Voilà. Après, vous prenez votre responsabilité auprès de nos auditeurs, etc. Vous détestez le Stade Toulousain, c'est votre faute.
Non, là où
ne pas mettre Willis.
Là où Marius m'a convaincu, c'est le meilleur plaqueur de la compétition, Matt Fagerson. C'est compliqué de le sortir. Et je pense en effet que tu as raison sur un discours qui est que Willis, on le voit également en top 14, et est-ce que tu te souviens?
Ah, mais il sera dans le 15 de la saison top 14.
Voilà, mais ce que je veux dire, est-ce que tu te souviens d'un moment clé, d'un match clé de Willis en Coupe d'Europe cette année?
Bah,
mais
est-ce que tu te souviens d'un mauvais match?
C'est meilleur gratteur de la compète aussi.
Ah, tu vois, est-ce que tu te souviens d'un mauvais match de Willis dans la saison?
Non.
Parce que même contre Bordeaux, il y en a un qui se bat.
Oui, c'est lui. C'est lui. Non, mais bien sûr. Donc, je suis d'accord.
À chaque match, le mec que tu ressors, c'est Willis. Donc,
écoutez,
pour moi,
si vous n'êtes pas d'accord avec nous, n'hésitez pas à commenter.
Limite, on enlève Rocky si vous voulez, on met Willis. Hein, mais
Je veux bien. Ça va, je suis preneur.
C'est pas bien, ça. C'est compliqué de le sortir.
Après, moi, j'avais mis les deux, mais vous êtes là avec votre Fagerson.
Tout dépend. Comment vous voyez le rôle d'un troisième ligne, le premier rôle? Offensif ou défensif?
Mais attends, mais
c'est
moi,
défensif, c'est
attends,
les mecs qui doivent être turbains et plaqués à tout va.
J'ai le mec qui
est là
qui défend. J'ai le mec qui défend et qui gratte, j'ai Willis. J'ai le mec qui saute en touche, j'ai Woki. Et j'ai le mec parfait.
Bon, t'es en train de me dire que tu veux virer l'Écossais?
Non, il a parlé de Woki.
Non, il veut virer l'Écossais. Je le connais, il veut virer l'Écossais.
Non, le principe même d'un troisième ligne, c'est de plaquer. Donc tu veux pas le meilleur plaqueur.
Tu veux virer le kilt?
Moi, j'ai mis Woki, Willis, Barbery. Mais après, vous vous battez.
Mais parce qu'il y a non mais de toute façon il y a trop de scandales là dedans. Comment on peut pas mettre Doris? Vous êtes fous? J'arrive même pas. Kaylan Doris, je suis désolé, on peut pas l'enlever lui. C'est de faire une insulte au rugby.
Alors, ok, messieurs, on va repartir.
Lui la troisième ligne, il y a zéro français.
Troisième ligne, Woki Barbery, ça ne bouge pas. Qui complète cette troisième ligne? Willis. Il y a trois possibilités: Matt Fagerson, Willis ou Doris. Marius.
Doris.
Willis.
Donc c'est à moi de trancher. Entre Doris et Willis. Matt Fagerton, à la trapinette.
Il est passé de titulaire.
Et Woki, il est imbougeable.
Woki, tu peux pas le bouger. Honnêtement, tu peux pas le bouger. Il met un triplé, il contre Northampton.
Je vais même vous dire, je mettrai Doris avant Barbery, moi. C'est vous dire.
Ouais, il y a un moment où. C'est sa tante. Elle s'appelle Doris et ça lui rappelle des souvenirs.
Je vais.
D'ailleurs, Doris oublie tous ses souvenirs dans les mots.
Je vais aller sur. Kellen Doris, pour une seule et bonne raison.
Donc je m'enlève le meilleur plaqueur pour foutre le Doris.
Le sans doute l'un des meilleurs joueurs du
monde. Ouais, certainement le meilleur troisième ligne du monde actuellement.
Avec
Willis. Mais t'as voulu mettre Woki. C'est ta faute.
Mais moi je voulais mettre les deux.
Bon. Messieurs,
je suis allez,
on
reste
15, sûr, on le 15 sûr, est plié, c'est réglé, on n'en parle plus, vous le verrez sur les réseaux. Quant à Cabanis, va commenter partout avec tous ses faux comptes pour être sûr de faire une très mauvaise pub.
Tu sais, j'ai pas besoin, hein, nos amis toulousains se chargeront de votre cas.
Ouais, ils ont bien raison.
Par contre, il n'y a pas Baptiste Delaporte en troisième ligne, je suis un peu déçu parce qu'il fait...
Allez, on va passer à autre chose. Les Castrés qui, Dieu bénisse, ne joueront pas la Champions Cup l'année prochaine.
Waouh. Comment ça, Dieu bénisse?
Je sais pas, vu ce que vous en faites à chaque fois.
Ouais, cette année, on n'a pas été déconnant. Hein.
Ouais, super phase finale. Hein.
Vous avez fait un match de rêve et après, vous avez explosé en vol, comme d'hab.
Attends, on a été faire un super résultat à l'extérieur et
oui,
tout.
Oui, les frissons.
T'as vibré sur ce match ou t'as pas vibré sur ce match? Donc, dis-nous merci.
J'ai eu un frisson qui a parcouru rapidement mon corps.
Attends, on m'a dit que la... Waouh, bref, ça allait trop loin.
Et la bienveillance surtout.
Ah oui, oui, non,
merci. Quant à Cabanis, merci Marius ou François. On vient de clôturer donc cette Champions Cup et cette Challenge Cup avec le succès de Montpellier et de l'Union Bordeaux-Bègles. Retour au top 14, vous l'avez compris, un top 14 palpitant pour ces deux. Palpitant pour ces deux prochaines journées, pour cette fin de saison, évidemment, à vivre sur Sud Radio, la radio du rugby. Merci, messieurs.